Le samedi 9 mars 2019, j'ai eu l'opportunité d'assister à l'événement Puissance des corps utopiques, une invitation du CIEP, les Centres internationaux d'art et du paysage des Vassivières, une rencontre avec Denetem Touambona, écrivain et philosophe, et ses invités Florence Boyer, chorégraphe, et Barbara Glossowski, anthropologue. Ceci est la présentation des pistes de recherche sur corps et graphie, mémoire et rythme des résistances.
C'est un peu étrange d'être là parce que c'est pas moi le paysage, c'est pas vraiment mon domaine. Enfin, c'est pas, j'aurais pas pensé être dans un centre d'art contemporain lié au paysage parce que c'est quand même une notion qui est pas mal liée au visuel, notamment à la peinture. Hein, si on pense à la naissance de la notion de paysage qui est liée justement à la fenêtre dans le tableau qui permet de, quelque part. L'émergence d'une peinture profane au sein de la peinture religieuse, puis après l'extension, quand on parle de paysage, c'est d'abord un tableau. Donc c'est une certaine approche du territoire. Moi a priori, c'est pas. Moi je travaille plutôt sur les formes de résistance et de créativité, notamment liées à l'histoire coloniale, à l'histoire en particulier des esclaves, mais que j'étends à toutes les formes de création et de résistance aujourd'hui aussi. Alors le sens de cette résidence, pour moi, quelque part à Vassivière, c'est saisir cette occasion pour questionner le rapport entre corps, graphie et géographie, entre écriture du corps et écriture de la terre. Donc ça suppose une autre conception de l'écriture qui ne la limite pas à l'inscription de signes alphabétiques sur une feuille de papier, mais insiste plutôt sur son rapport intime au geste et plus largement au mouvement. La notion de figure permet justement d'ancrer l'écriture dans le mouvement du corps. On dit bien d'un danseur, d'un gymnaste ou d'un calligraphe qu'ils exécutent des figures, que leur mouvement laisse ou non une trace visible. Aujourd'hui encore, le paysage est souvent perçu comme relevant du patrimoine, associé à quelque chose d'immobile, presque immuable, qui serait le garant d'une identité racine. Si une certaine écologie, que critique avec vigueur et brio des penseurs comme Gilles Clément ou Emanuele Coccia, peut alimenter des fantasmes identitaires, c'est justement parce qu'elle pense le paysage comme une nature figée qu'il s'agit de conserver. Cette écologie de conservatoire tend à faire du paysage une nature morte. Donc c'est un peu à l'encontre de ce type d'approche, puis aussi à l'encontre aussi d'une forme de normalisation ou de marchandisation que peut véhiculer parfois l'usage, en tout cas de la notion de patrimoine, que s'inscrit aussi mon travail et puis celui d'autres. Alors, je vais revenir sur ma présence. Donc, on a peut-être un petit projet, mais je ne vais pas trop m'étendre dessus avec Marianne Lanavert, parce que pour l'instant, c'est trop... C'est encore en émergence, mais dans ce projet qu'on imagine éventuellement, enfin, moi ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt de faire intervenir des gens liés, des gens qu'on n'invite pas d'habitude en fait, dans ce type de centre d'art contemporain. On fait plutôt appel à des designers, des architectes, des plasticiens, des sculpteurs, enfin, bref, là ce qui m'intéresse c'est plutôt faire appel à des gens liés aux arts du mouvement, aux arts vivants en fait. Donc je vais, parce que quelque part il n'y a pas de meilleur moyen que, notamment la danse, que la danse, pour rappeler qu'un paysage c'est toujours un territoire en mouvement, animé par la puissance métamorphique de la vie elle-même. Donc il s'agirait quelque part de questionner le vivant, bah, justement de l'expression art vivant, à travers laquelle on rassemble à travers cette expression, on rassemble la musique, le chant, le théâtre, la danse, le cirque, la performance, et penser ces arts vivants comme les activateurs de nouvelles territorialités, comme des formes éventuelles d'écologie politique concrète, comme des pratiques d'enchantement, hein, qui riposteraient justement au désenchantement lié à la modernité. Max Weber parle justement de la modernité comme à travers ce processus où la rationalité, une rationalité technique, scientifique, économique dépouille la nature, dépouille le monde en fait de toute spiritualité, de toute raison, de toute et réduit en gros pour aller vite tout en nombre, en mesure. Donc il s'agit aussi de conjurer le mythe de la forêt vierge. Qui est d'une certaine façon la matrice coloniale de la conception occidentale de la nature. Comme il existe une fabrique coloniale des corps désarmés, qui a bien été soulignée par Elsa Dorlin dans son livre « Se défendre », il y a une matrice coloniale de la terre désarmée, livrée à la pénétration, au viol, à l'éventrement, à l'extractivisme. Donc le réenchantement doit être conçu comme un quelque part une montée en puissance ou un réarmement, car le capitalisme exige que l'ensemble du vivant soit réduit au statut de ressources naturelles à exploiter, de marchandises, de capital. Rien ne doit lui échapper. Et le capital, c'est l'idée que, quelque part, la terre et le corps soient dépouillés de tout esprit, de toute puissance. Alors, la cosmologie des aborigènes d'Australie est sans doute l'une de celles qui permet de penser le mieux le déploiement de territoires à travers le chant, la danse, les rituels, sous la forme de multivers ondoyants. Mais je laisserai Barbara Glosowski en parler, justement, pour clôturer, justement, cette petite manifestation. Quant au travail de Florence, il questionne les effets sur les esprits et les corps d'un arrachement brutal au territoire qui nous a nourris, par le dégradé chromatique de ses pangoisés, par les chuchotis de ses rivières, par les ritournelles de ses oiseaux chamarrés, par les comptines de ses grand-mères, par les saveurs de son créole, par le vertige de ses musiques et de ses danses. Donc là, il sera question de la dépossession, de la transportation forcée de milliers d'enfants réunionnais en Creuse, qui répètent dans une certaine mesure la déportation des Africains dans les colonies esclavagistes.
Marie, Mad, Basaline, Salomon. Ah, ou même mon gros-mère, mon gros-maman. Puis longtemps ou pas, malgacine, mon nation. Ah, moi, babas habitant tampon. Ah, moi, babas habitant tampon. Marie, Mad, Basaline, Salomon. En respect, en l'honneur, à mon imagination.
Donc là, c'est un extrait de Fury Graphier le vide. C'est un film tourné par Hélène Awad, la femme du grand poète et furigraphe Awad, qui est venue justement à Émoutiers lors des Poétiques du Refuge, où il parle justement, il évoque justement ce rapport entre corps et territoire.
Là où je suis sur ce rocher, je suis assis sur mon épaule droite. C'est un lien très très important. C'est la limite du territoire, corps, mental et géographique touareg vers le sud. Et c'est pourquoi nous voyons beaucoup un sort des fourmillements, des signes, de l'écriture, des sons et des gestes et des mouvements. Tout ce que vous voyez ici suggère un dialogue avec l'autre. Si vous voulez, les démons d'en face, l'X qui est là-bas, l'autre, mais il apporte autrefois sa provision de voyage. J'apporte le mien, l'échange, les sandales qu'on voit ici, ça veut dire j'ai épousé cet espace, ce vide, cet autre monstre, mais qui en même temps une partie de moi-même avec lequel je peux changer. Celui d'aujourd'hui, elle ne change pas. Lui. Moi, je suis au contraire de mes ancêtres, depuis 5000 ans dans ces déserts du Sahara. Le théâtre, moi, pour moi, il devient réalité, n'est pas imaginaire. Ce qu'il suggère, ces choses-là. Moi, je les vois au quotidien, je les vois dans ce que j'affronte. La manière de vaquiller ou de décomposer cette violence de l'agression, de l'absence de l'autre, l'absence de moi-même, l'absence de... Parce que moi, j'ai besoin de ce corps-là, ces rochers, j'en ai besoin, ces montagnes-là. Je voulais qu'elle me les restitue, non pas seulement politiquement, mais mentalement, à m'arracher mon cerveau, mon corps, et partout il est parti. On a disloqué. Il faut que me la rende. Pour qui? Alors, puisqu'on ne pourrait pas me la rendre politiquement pour l'instant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me les restitue. Parce que l'autre, je sais où il va aller dans le déchirement de cet espace. Et moi, je le déchire avant. Tu vas m'égorger. Tu vas me hacher. Alors, je m'hache moi-même. Pas pour te faire plaisir, mais pour me multiplier.
La vie ne s'inscrit dans un paysage que par le tracé des êtres vivants et des éléments. Le tracé, c'est-à-dire la graphie. Le tracé n'a pas forcément un sujet, comme l'a bien compris dans son travail avec les autistes Fernand Deligny. L'écriture, la graphie, n'est pas le monopole de l'humanité. La vie a toujours été géographie. Écriture de la terre à travers le fourmillement, le tissage, l'empilement, la sédimentation, le maillage des lignes de vie. C'est à partir de la formation du tumulus que le penseur Tim Ingold souligne le fait que la terre ne préexiste pas aux vivants. La terre n'est pas un réceptacle, une marmite dans laquelle se déverserait comme par miracle le bouillon primordial de la vie. Le sol même sur lequel nous cheminons et bâtissons est lui-même une production du vivant. Alors là, je cite un extrait de... Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Un extrait du livre de Tim Ingold qui est publié aux éditions du Dehors. Bon, le travail est excellent. Là, j'ai un trou de mémoire. Faire, merci. Voilà. Le sol que l'on a sous les pieds est un tissu de lignes de croissance, d'érosion et de décomposition. Loin de séparer la terre du ciel, le sol est une zone où la terre et le ciel s'en mêlent dans un perpétuel renouvellement de la vie. Des taupinières au nid de fourmis, les tumuli font partie des formes les plus courantes de la nature. À chaque fois, une forme de rondeur se développe spontanément en raison de la pression que la matière ajoutée au sommet exerce sur la base en déplaçant la matière située en dessous dans toutes les directions. On pourrait dire que le tumulus se construit précisément parce que le matériau qui le constitue ne cesse de s'effondrer. Alors si on y réfléchit bien, nous marchons, nous courons, nous dansons sur l'effondrement, et la chute d'Alice n'a pas de fin. Le tracé renvoie d'abord à des passages, à des mouvements, à des ensevelissements, à des traversées, à des parcours, à des gestes qui dans leur sillage égrènent des traces. Et ce sont ces traces, leurs différentes strates, leurs entrelacs, leurs chevauchements qui constituent les mémoires de la terre, du vivant et des humains. Mémoire, mais aussi opacité et résistance de la matière, de la matrice, de ce qui continue à pousser et croître en nous, à durer, à perdurer, y compris à travers ces métamorphoses. Corps et graphie. Le corps est toujours pris dans un mouvement qui s'inscrit dans l'espace, même qu'il déploie, selon un certain rythme. La chorégraphie participe de l'écriture de la terre, de sa transmutation en territoire. Mais le corps n'existe pas. Il est toujours à construire, et la danse n'est rien d'autre que l'art de cette construction, une anarchitecture du mouvement. Au départ, les mouvements du danseur ou de la danseuse peuvent être bavards, désordonnés, contradictoires, stéréotypés. C'est souvent au seuil de l'évanouissement que naît le mouvement juste par transmutation de la charge en légèreté, comme dirait Nietzsche. Comme s'il condensait en un mouvement toute une constellation d'affects et d'émotions. Qu'est-ce qu'un corps qui danse ? Un corps brume qui se condense dans l'éclosion d'un geste, écho du corps de la mer, écho des ancêtres, écho du cosmos. Corps rêve habité par des mémoires, des lignes de vie plurielles, non pas corps de rêve, mais corps utopique, corps refuge, corps archipel. La danse est la transposition du passé en pas suspendu vers l'avenir. Dans l'expérience du déportement des Africains vers les Amériques. Sans doute est-ce l'inconnu, affronté sans préparation ni défi. Le terrifiant est du gouffre, trois fois noué à l'inconnu, une fois donc inaugural, quand tu tombes dans le ventre de la barque, le ventre de cette barque-ci te dissout, te précipite dans un non-monde où tu cries. Cette barque est une matrice, le gouffre matrice, génératrice de ta clameur. C'est un petit extrait que j'ai coupé de La barque ouverte, un poème d'Edouard Glissant, qui se réfère au passage du milieu, ce qu'on appelle le passage, la traversée de l'Atlantique, où un grand nombre, des millions de personnes, ou centaines de milliers, je ne sais pas, sont morts dans ce passage du milieu, et quelque part, c'est le début de l'histoire des afrodescendants dans les Amériques, mais aussi dans l'océan Indien, puisqu'il n'y a pas que dans les Amériques. Donc c'est justement pour faire de ce gouffre le raturage de la mémoire et de l'être, une puissance créatrice et non une source continuelle de victimologie, qu'Edouard Glissant appelait à une vision prophétique du passé. Une vision qui s'attache à restituer l'action et l'humanité des migrants nus et leurs descendants, en les recomposant à partir de la moindre trace, de la vibration la plus ténue, de la plus infime lueur. C'est pourquoi les historiens ne sauraient avoir le monopole de l'exploration du passé. Les vies sans traces, les esclavagisées, exigent en effet le travail de résurrection et de récréation du poète, du conteur, de l'artiste chaman. Puisqu'il n'y a que les archives des maîtres qui ont surtout été les archives officielles écrites. Hein. Donc, si on reste à l'écrit, on n'a que la voix des maîtres quasiment. Donc on est obligé d'aller au-delà. Et cette archive, c'est l'archive du corps elle-même, l'archive des musiques, l'archive des savoir-faire, etc. Bien qu'ils aient pu les renforcer, leur donner une pleine légitimité ou leur ouvrir des perspectives inédites, les écrits et les discours des philosophes n'ont jamais initié aucun mouvement de libération chez les damnés de la Terre, quel qu'il soit. Ce n'est pas d'abord par la grâce des idéaux du siècle des Lumières que les afro-descendants ont pu sortir des ténèbres de l'esclavage. Ce qui les a d'abord guidés, ce qui leur a permis de rester debout alors qu'ils n'étaient pas destinés à survivre, ce sont bien plutôt les lueurs des savoir-faire et des cosmologies incorporées. Ces puissances inscrites dans les mouvements mêmes des corps esclavagisés. Lueurs des ancêtres, des orishas, c'est-à-dire des divinités afro-diasporiques, des forces cosmiques qui éclairent par le biais de rythmes activateurs de mémoire les vies en sursis de l'esclavage. Lueur, car leur lumière libératrice ne doit pas éveiller l'attention du maître. Une chandelle, un clair de lune, un feu agonisant tout au plus. Lumière mineure qui chuchote sous le couvert de la forêt ou dans la nuit clandestine. Le mouvement de libération doit être pris au sens propre. C'est d'abord le mouvement d'un corps dansant, d'un corps qui se déchaîne de mille et une façons. Conversion du tremblement de peur et d'humiliation au tremblement de rage et de joie. Tectonique des corps qui substitue au corps tombal de l'esclave, le corps transfuge de la divinité. Un mouvement de libération est toujours corps graphique. Une spiritualité politique émerge à même le corps, à même son indocilité foncière. Lorsque les migrants européens s'embarquent pour les Amériques, ils emportent avec eux leurs habits, leurs outils, leurs bibles, leurs icônes, leurs religions, leurs langues. Durant la traversée de l'Atlantique, anglais, allemands, français ont la possibilité de parler et de vivre avec leurs compatriotes. Dans les premières grandes villes américaines, ils reconstituent leur communauté d'origine, quartier italien, grec, irlandais, etc. A l'inverse, les esclaves africains partent pour le nouveau monde séparés des leurs, de ceux qui parlent leur langue et dépouillés de tout, y compris de leur humanité. La traversée de l'Atlantique commence en effet par une mise à nu et un marquage au fer. Les captifs ne sont plus personne, ils n'ont plus de nom, seulement une cicatrice, celle qu'a laissée sur leur peau le rougeoiement incandescent des initiales du navire. Les nègres sont des migrants nus, comme dit Glissant. Des hommes, des femmes, des enfants dénudés et réduits à la vie nue, à la vie strictement biologique du ventre du bateau négrier. La traite des nègres est une migration sans retour, hors de l'Afrique et hors de l'humanité, une déportation. Le négrier ne transporte pas des personnes, il aligne, enchaîne, juxtapose des corps qu'il laisse macérer dans leurs propres effluves. Ceux qui ne résistent pas à la faim, ceux qui ne résistent pas à la folie, ceux qui ne résistent pas aux maladies sont, au fur et à mesure de la traversée, reversés à la mer. L'Européen débarque en Amérique comme un pionnier, le nègre, lui, y échoue comme un rescapé. Là, je vais lire un texte de Foucault, en contraste, autour du, justement des corps utopiques. Une conférence des années 60. Le corps est un grand acteur utopique, quand il s'agit des masques, du maquillage et du tatouage. Se masquer, se maquiller, se tatouer, ce n'est pas exactement comme on pourrait se l'imaginer. Acquérir un autre corps, simplement un peu plus beau, mieux décoré, plus facilement reconnaissable. Se tatouer, se maquiller, se masquer, c'est sans doute tout autre chose. C'est faire entrer le corps en communication avec les pouvoirs secrets et des forces invisibles. Le masque, le signe tatoué, le phare dépose sur le corps tout un langage. Tout un langage énigmatique, tout un langage chiffré, secret, sacré, qui appelle sur ce même corps la violence du Dieu, la puissance sourde du sacré ou la vivacité du désir. Le masque, le tatouage, le phare place le corps dans un autre espace, ils le font entrer dans un lieu qui n'a pas de lieu directement dans le monde. Ils font de ce corps un fragment d'espace imaginaire qui va communiquer avec l'univers des divinités ou avec l'univers d'autrui. On sera saisi par les dieux ou on sera saisi par la personne qu'on vient de séduire. En tout cas, le masque, le tatouage, le phare sont des opérations par lesquelles le corps est arraché à son espace propre et projeté dans un autre espace.
Papa de mon pourquoi tu cries à libel mi cri à ligo. Papa de mon pourquoi tu cries à libel mi cri à ligo.
Réminiscence de la présentation des pistes de recherche sur corps et graphie, mémoire et rythme des résistances, par Denetim Touambouna, lors de sa résidence au CIAP, Centre international d'art et du paysage. Une réalisation de Nini Jegas pour Radio Vassivière.